Comme il y en a qui n'étaient pas là la dernière fois, je fais une micro-transition avec le cours précédent, parce qu'on avait vu surtout, on avait commencé la colonne Trajan, on a continué. Et là, on va continuer le thème suivant, c'est quand même toujours dans l'Empire romain, mais on va avoir affaire à un passage un peu particulier. C'est le passage au cœur de l'Empire romain, de la tradition polythéiste, dite païenne de l'Empire romain, à la tradition chrétienne. Or, ça va être très important au niveau de l'image, parce que le rapport à l'image va complètement changer. Alors, juste pour rappel, ça, ce sont des fresques de Pompéi. Pompéi a été ensevelie vers 70, je crois, après Jésus-Christ. Mais Pompéi, c'était une ville qui avait 700 ans. Donc, si vous voulez, vous avez à Pompéi, vous avez des choses usées, il y a un patrimoine déjà à Pompéi, donc c'est une ville très ancienne. Et donc, la datation de certaines fresques, c'est pas forcément 70 après Jésus-Christ, ça peut même être avant. Toujours est-il que dans les fresques de Pompéi, on voit déjà une maîtrise de la question de l'illusion et de l'apparence, avec dégradé atmosphérique, contre-plongé, trompe-l'œil, avec y compris même des masques qui semblent être posés sur des balustrades, l'atténuation des contrastes et des couleurs et des tons qui donnent l'impression que les architectures sont un peu au loin, la contre-plongée, vous voyez les chevaux ici, et que l'on voit aussi d'ailleurs dans la partie supérieure. Qu'est-ce que c'est que cette affaire là? Pouf, pouf. Voilà, alors, bon, j'ai plus de barres, je ne sais pas pourquoi elle ne part pas. Mais ah oui, on voit ici des personnages qui semblent apparaître aux fenêtres, et même des points de vue, un point de vue unique aussi, donc on joue sur l'apparence, la séduction, l'ombre et la lumière en temps et en heure, ici et maintenant, comme on dit en latin, je crois que c'est hic et nunc. Donc, vous avez cette idée aussi de l'illusion, parce que ce sont des fresques, des peintures faites sur du plâtre, qui lui-même sur de la brique, qui est souvent par-dessus une sorte de béton ou de blocage, qu'on appelle du blocage, et du mortier, des cailloux, etc. Donc, en fait, on n'a pas accès à la réalité, on est dans des illusions, effectivement, et un jeu avec l'illusion et les apparences, et aussi le pouvoir de représentation du monde réel. Et ça, c'est typique de l'Empire romain, c'est la maîtrise sur le monde réel, militaire, économique, technique, y compris d'ingénieurs, ponts et chaussées, les aqueducs, les bains, toutes ces choses-là. Donc vous avez une technologie romaine, et on considère, au XIXe siècle, le théoricien Franck Castel je vous dit que quand on maîtrise un domaine, eh bien, on aime représenter sa maîtrise. C'est-à-dire que l'expression artistique correspond souvent au rapport que l'on a au monde. C'est-à-dire maîtriser l'apparence du monde, c'est aussi quand on maîtrise, quand on accorde une importance très importante à la maîtrise du monde réel. Ce qui est le cas des Romains.
Olivier, oui. C'est visible à Pompéi, ça, parce que moi, je suis allé.
Ça, c'est la maison des mystères, en fait. C'est, alors, à Pompéi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Non, mais. Et là, par exemple, encore, vous voyez dans le paysage, représentation des vallées, bateaux, des maisons, extérieurs, paysages, avec cette idée aussi d'une ombre et d'une lumière de l'instant. Ça aussi, c'est important. On est bien quelque part, on le montre, et dans l'espace et dans le temps. L'esprit réel, y compris, rappelez-vous, les portraits même des empereurs romains, j'ai commencé avec ça, ou y compris les individus. Donc on n'est pas dans l'idéalisation, on n'est pas du tout dans une pensée idéalisée ni religieuse, mais ce n'est pas exempt d'une certaine philosophie, puisqu'il y a quand même ce jeu avec l'illusion. Ils savent très bien que ce sont des illusions, ils savent très bien qu'ils sont trompés par les regards, et on sait très bien, ça va mener jusqu'à Descartes, est-ce que mes sens me trompent ou pas? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui opère en moi, etc. Donc cette idée aussi de la vie réelle dans laquelle il faut s'inscrire, c'est quelque chose qui... C'est pas pour ça que les Romains sont bêtes, mais il n'y a pas cette espèce de transcendance ou de religion un petit peu mystique ou idéalisée. Il y a un côté pragmatique, mais en même temps qui peut être intéressant. Alors, là où... Alors, je résume, parce que... et ça va, regardez, jusqu'à des jeux de transparence. Et la virtuosité aussi, la maîtrise technique, regardez la carafe, c'est pas en fresque. C'est-à-dire en fresque, il n'y a quasiment pas de retouche. C'est un peu comme l'aquarelle, vous peignez sur le plâtre frais, et dès qu'il sèche, ça donne des effets qui ne sont pas du tout aussi intéressants. Donc il faut jouer sur la virtuosité, sur la maîtrise, y compris technique, de la main et du regard. C'est quelque chose qui est à l'œuvre aussi dans les peintures romaines. Alors, je reviendrai plus tard, mais Il y a beaucoup de mythes aussi autour de l'illusion et du trompe-l'œil dans la tradition gréco-romaine, notamment les raisins, les peintures de raisins et appels, etc. Les peintres mythiques gréco-romains ont dit que sur une des peintures, les oiseaux étaient venus picorer les raisins. C'était le sommet du trompe-l'œil, c'est de tromper y compris même des animaux. Donc, tout à coup, des oiseaux qui allaient picorer des raisins peints sur la fraise. Donc on voit que c'est totalement assumé et revendiqué cette idée d'imiter la nature dans son apparence immédiate, et y compris tous les états de la nature. Alors pourquoi je montre ça? Parce que justement, ça va changer complètement quand on va passer du côté et progressivement d'un art religieux. Un art religieux. Et c'est là aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine, ça dépend du temps que je prends, je ne sais pas. Je n'ai pas tout à fait programmé. Mais donc, normalement, on devrait voir le mausolée de Galla Placidia, qui est à Ravenne. Alors, Galla Placidia, et c'est donc, on est dans l'Empire romain. Alors, par contre, on est plus tard que Trajan. Trajan, rappelez-vous, c'est à peu près 110, les années 100, 110, etc. Le mausolée de Galla Placidia. Galla, J-A-2-L-A, Placidia, P-L-A-C-I-D-I-A, c'est marqué au-dessus. Alors, Galla Placidia, la voilà, hein, d'ailleurs représentée en portrait, c'est une impératrice romaine. Alors, je vais un peu rapidement, mais il s'est passé quelque chose entre Trajan et Galla Placidia, c'est Constantin. Constantin, dont je pourrais parler une autre fois, mais avec son songe, où tout d'un coup un ange lui dit, il est en guerre contre eux. Attendez, je rappelle quand même, je rembobine. Du temps de Constantin, donc à peu près 300 après Jésus-Christ, l'Empire romain est tellement grand qu'en fait il y a deux empereurs. L'Empire est partagé en gros en deux, Empire d'Orient, Empire d'Occident. Maximilien est l'empereur romain de l'Occident, donc en gros Méditerranée occidentale, Gaule, etc. Et Constantin est l'empereur de l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire actuelle Turquie, en gros Bulgarie, Roumanie, Proche-Orient, Syrie, etc. Je simplifie. Et si vous voulez, ils sont en gros, ils gouvernent ensemble, mais il y a des rivalités et parfois des enjeux de possession, de pouvoir, bon, comme il peut y avoir. Et Constantin, dans sa bataille contre Maxence, dans ses guerres contre Maxence, a en songe un ange qui lui dit « Écoute, si tu mets le drapeau des chrétiens, la croix des chrétiens sur tes drapeaux, tu vas gagner. » Parce que les chrétiens sont une secte qui s'est répandue dans l'Empire romain, avec son discours universaliste, son discours qui s'adapte parfaitement avec tout l'Empire, c'est qu'ils sont capables de s'adapter à toutes les cultures de façon très simple. Ils ont un côté très populaire et en même temps un côté savant. Populaire dans leur message et savant dans leur conception philosophique. Ce qui fait que les chrétiens ont une influence assez grande, mais ils ont été persécutés, mais ils réussissent à influencer un certain nombre de personnalités, même parfois haut placées. Constantin, à partir du moment où il gagne la bataille, après son songe en ayant mis les croix sur ses étendards, décide de se faire chrétien, progressivement, et donc va transformer, avec Constantinople, va devenir la ville de la chrétienté, et progressivement, le christianisme va devenir une sorte de religion officielle de l'Empire. Mais il n'empêche pas les autres religions dans un premier temps. Donc on est dans une phase de transition assez longue et complexe, où tout l'Empire romain bascule progressivement, grâce à l'empereur Constantin et ses enfants, et sa suite, Théodose 1, 2, 3, 4, etc., vers une christianisation. Alors, c'est Galla Placidia est en fait une des héritières directes de Constantin. C'est une femme, il y a une impératrice, c'est une période où il y a encore des impératrices, hein, qui est importante. Et, sauf que vers le 5e siècle après Jésus-Christ, on est à peu près vers 500-600, etc., l'Empire romain qui a été fragilisé, qui est trop grand, qui a perdu son unité politique, qui en plus, avec des tensions religieuses entre les chrétiens d'un côté, plus ceux qui sont restés à des cultes, on l'a vu, Isiaque, même à Hathor, les cultes égyptiens, les cultes gaulois, les cultes, les juifs qui sont restés juifs et qui ne sont pas chrétiens. Vous avez donc une diversité. Et puis vous avez une pression énorme aussi des peuples de l'Est. Des peuples de l'Est qui vont arriver. Les Francs, Clovis arrive, les Gaules, les Visigoths, les Ostrogoths, les Alains, les Burgondes, les Lombards, etc. qui vont, une grosse pression de l'Est, qui vont commencer à envahir et déconstruire progressivement l'Empire. Alors c'est là qu'intervient Galla Placidia, parce qu'elle était déjà chrétienne, et on peut la comparer en fait à Clotilde, c'est la même époque, Clotilde qui va christianiser Clovis, et Galla Placidia qui va christianiser justement un des envahisseurs wisigoths. Je simplifie, c'est à peu près ça. Donc si vous avez une sorte de l'Empire romain tout d'un coup va réussir à conserver, à se structurer une unité cette fois-ci par la religion, y compris devant les forces extérieures qui arrivent. Parce que finalement, la religion chrétienne finit par être presque un des seuls ciments de l'Empire romain qui reste vers le 5e siècle. Alors c'est compliqué, il y a 300 ans d'histoire, 400 ans, mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est que ça a été christianisé par l'empereur Constantin progressivement, cet empire christianisé est en même temps rogné et affaibli, et en même temps, ce qui reste, ce qui surnage, ça reste finalement la religion. Parce que le pouvoir réel lui-même est battu en brèche, il y a des rivalités, des conflits, enfin, il y a des zones en conflit actuellement, on imagine très bien ce que ça pouvait être à l'époque. Et tout à coup, la religion devient un des ciments. Et c'est assez marrant, le rôle des femmes ici, notamment, qui reste tout d'un coup aussi peut-être plus détentrice de la religion, parce que les hommes sont peut-être plus occupés à se battre, etc. Je simplifie. Alors, Galla Placidia, on la voit ici. En gros, elle va faire un premier mariage qui va, en gros, christianiser, en gros, pacifier, y compris, et intégrer à l'Empire romain son premier époux. Et voilà donc certains de ses enfants. Alors, elle est représentée dans cette peinture, sur un médaillon en verre, hein, d'ailleurs, à la manière romaine, et c'est là où c'est intéressant, encore avec l'illusion, la représentation, des modelés, des portraits. Donc ce qui pouvait se faire en sculpture se fait aussi en peinture, on l'a vu en fresque, etc. Donc voilà Galla Placidia. Alors le mausolée lui-même et le Galla Placidia, impératrice revendiquée chrétienne, voilà un médaillon de Galla Placidia, hein, en impératrice, profil de médaille, et ici tenant la croix, hein, donc très clairement. Un ange tenant la croix, donc elle est associée au christianisme de manière très claire. Alors là, on est effectivement... Alors, Galla Placidia était donc de tradition orientale, descendante de Constantin, Théodose, etc. Et pour des raisons plus ou moins complexes, parce que j'ai su tout là-dedans, c'est un sac de nœuds possible, elle va s'installer du côté de Ravenne, dans le nord de l'Italie. Et Ravenne va être une des places très très importantes, justement, du christianisme. Alors c'est aussi à la frontière, le nord de l'Italie, bah, des peuples qui viennent du nord et de l'Europe centrale. Donc c'est aussi une zone tampon, hein, donc ça c'est important aussi, parce qu'il s'agit aussi de marquer bah, les marches et les frontières de l'Empire romain, de les conserver, là où en plus ils sont sous une très forte pression d'envahisseurs ou d'une pression extérieure. Alors voilà donc Galla Placidia. Voilà le mausolée tel qu'il était à l'époque. Alors le mausolée de Galla Placidia, c'est à sa mort, c'est ce petit bâtiment central qui était accolé à ce qu'on appelle une basilique. Alors, les basiliques sont des établissements romains christianisés. La basilique, c'est une pièce qui a multi-usages et qui a progressivement été dédiée à l'assemblée des fidèles, des chrétiens, etc., entre autres. Le mausolée, au contraire, a une vocation de sanctuarisation, parce qu'un mausolée est quand même dédié à la mort, à une sorte de prière, et en gros, c'est une sorte de tombeau. Souvent, le plan central, d'ailleurs, évoque plus, effectivement, cette idée de la transcendance, parce que là, la seule direction, le sol, c'est vers le haut. La plupart des édifices à plan centré, les baptistères, les mausolées, sont effectivement des édifices dans lesquels il y a une dimension très, très sacrée, etc. Les églises, c'est pour une assemblée. Le clocher, c'est pour appeler, etc. Donc, hein, vous avez en gros le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, c'est plutôt les mausolées et les fonts baptismaux. Le Saint-Esprit, c'est les clochers qui va voler. Et le Fils, c'est l'Église, l'Assemblée, où il y a une dimension très concrète et qui évoque plutôt le corps. C'est un truc tout bête, mais dans l'architecture, vous allez avoir aussi une tripartite de trois fonctions. Et le mausolée est souvent lié soit à la vie, soit à la mort, baptistère ou tombeau. Sorte de dimension un peu plus, beaucoup plus sacrée et primitive. D'où la structure centrale. Alors, ça, c'est une gravure de reconstitution. Hein. Alors, voilà ce qu'il en reste. Petit bâtiment en fer. Donc, 5e, 6e siècle, à peu près à la frontière. Hein. Alors, vraisemblablement, il devait être recouvert de marbre. Il n'y a aucune raison qu'il ait été en briques. Hein. Mais là, il est, on va dire, déshabillé. Il est déshabillé. Voilà un autre petit dessin qui suggère... Alors c'est des dessins contemporains, hein, à partir des fouilles qui ont été faites, on les retrouve bien. Alors, juste une chose, la tradition des médailles, elle n'est pas uniquement liée à Galatia, c'est très ancien, parce que l'Empire romain, tout en étant très multiple, a des continuités. Hein. Là, d'ailleurs, c'est un des fils de Galla Placidia, qui sera lui-même ensuite empereur, hein, d'un mariage de Galla Placidia, son deuxième mariage avec un certain Constance, son premier mari Visigoth, étant décédé. Chose ici assez étrange, c'est que ces personnages évoquent vraisemblablement les évangélistes, sans doute un lion, un aigle et un taureau, je ne sais pas, mais c'est un peu étrange. Alors on continue les médailles. Là vous avez Constantin III, hein, encore la tradition. Vous voyez les petites médailles, c'est plus récent. Hein, c'est donc, Alors la médaille est importante aussi parce que la monnaie, la médaille, c'est aussi une manière symbolique pour l'empereur d'être présent partout. C'est tout bête, hein, c'est une manière pour l'empereur d'être présent, y compris dans les poches de tout le monde, enfin dans les poches, dans les. Sur tout le territoire, hein, de la manière qu'il y a allégeance avec les portiques et les portails, vous avez aussi une présence donc de l'empereur, sa figure un peu symbolique, et aussi de son pouvoir monétaire sur le monde et en même temps symbolique sur l'or, qui est aussi une dimension sacrée, évidemment. Là, et on voit que le principe des médailles va continuer très longtemps. Ça, c'est une médaille de Léon l'Isaurien. Alors, paradoxalement, c'est quelque chose d'assez drôle. Donc, on est en 8e siècle. 1717, 740, 717, 740, 717. Ah ben ça fait un certain temps déjà, ça fait quoi? 1300 ans? 1400 ans? Non, oui c'est ça, non 1300. Léon l'Isaurien, qui n'est pas contre la représentation de sa personne sur les médailles, on le voit d'ailleurs tenant la croix, hein, Léon l'Isaurien sera aussi, et c'est là où c'est un peu un paradoxe, c'est l'empereur a aussi une voix très importante dans le domaine chrétien. Et Léon l'Isaurien, d'ailleurs, sera un des théoriciens de l'iconoclasme, c'est-à-dire de la destruction des images. Parce que, et c'est là où on va aborder aussi une des questions qui va être concrète dans l'Empire romain, c'est justement le statut des images sacrées. Le statut des images sacrées qui est un vrai casse-tête. Qui sera un vrai casse-tête parce que, et qui va faire les querelles byzantines, qui vont être un enjeu de guerre et de destruction d'œuvres diverses et variées, qui est un casse-tête qui continue toujours d'ailleurs, puisqu'il y a certaines religions qui sont toujours iconoclastes encore maintenant, donc l'idée de représenter ou pas Dieu, ou sa figure, ou son prophète, ou ses descendants, ou sa mère, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait des images? Est-ce que les images rapprochent de Dieu ou est-ce qu'elles éloignent de Dieu? Et vous avez donc un enjeu, et on voit là, bien que les médailles soient toujours les mêmes sur plusieurs siècles, il y aura un enjeu parce que justement, et c'est une histoire d'empereur, de pouvoir, de religion, d'image, de style au cœur d'un empire très vaste. Alors, je continue, puisque là, on aborde Léon l'Isaurien. Alors, le mausolée de Galla Placidia, lui, qui est avant l'iconoclasme, mais quelque part, on va voir que le mausolée de Galla Placidia et d'autres constructions vont quelque part justifier l'iconoclasme. Parce que l'intérêt donné à la peinture et à la beauté plastique et picturale va justifier que certains dénoncent ces belles œuvres comme éloignant de la religion. Donc, si vous voulez, et ce qui se passera aussi plus tard avec les protestants, quand au XVIIe siècle, enfin au XVIe siècle, les protestants voyant les splendeurs de Rome trouvent que on s'éloigne du religieux, etc., etc. Donc c'est un débat. Les cisterciens, c'est pareil. Les cisterciens vont dénoncer les peintures et les images religieuses et vont être aussi iconoclastes. Donc au sein même du catholicisme, vous avez des iconoclastes, puis dans la chrétienté avec les protestants. Donc c'est pas du tout propre ni aux traditions juives ou musulmanes. On l'a aussi au cœur du christianisme et même du catholicisme. Donc des traditions iconoclastes. Mais alors le mausolée de Galla Placidia, et pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il est justement dans une transition entre un empire romain, alors on va dire très romain, y compris on va voir dans les techniques, dans le mode de représentation, on va le voir un peu plus tard, avec des mosaïques magnifiques, avec quelque chose d'absolument somptueux, et déjà des figures chrétiennes qui sont très très clairement établies. Donc on a le début d'une iconographie chrétienne qui est en train de s'établir. Et on a en plus quelque chose qui est ensuite une période de transition, parce que vous avez aussi une sorte de femme impératrice chrétienne que l'on va adorer et honorer. Donc c'est encore dans Byzance, il y a encore des femmes qui ont une importance très importante en termes d'impératrice, et y compris au niveau religieux. Alors, Clotilde, c'est un peu pareil, mais on l'a totalement oublié au bénéfice de Clovis. Hein, mais Clotilde est peut-être plus importante que Clovis dans la pacification, si vous voulez, et la christianisation des Francs. Donc, si vous voulez, vous avez des choses qui sont intéressantes aussi, parce que c'est aussi une transition, sans doute, d'une période où les femmes dans l'Empire romain, bizarrement, oriental éventuellement, ont encore beaucoup d'importance. Et puis, progressivement, c'est quelque chose qui est aussi déconstruit. Alors, le mausolée est particulièrement remarquable, y compris par la qualité et la cohérence de son programme, de ses couleurs, des mosaïques avec du bleu et du vert qui sont assez rares, des couleurs beaucoup plus difficiles et rares à obtenir, parce que, alors, je ne sais pas en termes chimiques, mais les ocres sont plus faciles, hein, les terres, les rouges, ce qu'on voyait surtout d'ailleurs dans la tradition romaine, surtout des rouges, des bruns, etc. Et là, vous avez quelque chose qui, au niveau des couleurs, je n'ai pas toujours des bons documents, mais là, on les voit un peu mieux. Hein. C'est un petit ensemble avec une richesse décorative absolument somptueuse. Des scènes religieuses, on verra tout à l'heure quelques-unes, et puis des voûtes céleste qui évoque le tapis, le tissu, la décoration abstraite, les voûtes étoilées, etc. Alors, je reviens un petit peu. Là, on voit encore d'autres... Alors, c'est un peu grand angle, donc c'est un peu, sans doute, exagéré, mais pureté totale des volumes, qualité incroyable, on est à un sommet peut-être de la mosaïque, effectivement, et des jeux de couleurs et de lumière. Les vitres sont en albâtre, c'est du marbre translucide coupé très très fin. Hein, qui laisse passer une lumière. Et donc, vous avez une série de petites chapelles. Alors, on reviendra un petit peu sur les thèmes. Vous avez la croix qui domine la voûte, les quatre évangélistes, et puis ce qu'on appelle les lunettes ici, avec des scènes plus ou moins inspirées sans doute des évangiles, etc. Alors, je continue les documents. Alors voilà, une des scènes typiques, c'est le bon pasteur. Tout d'un coup, là, vous avez des images qui s'imposent, qui deviennent presque des... qui seront ensuite des archétypes. C'est que Jésus comme parabole du pasteur du troupeau des chrétiens, le bon berger, hein, le berger qui est ici avec l'idée de la brebis égarée, mais on a une peinture, vous voyez, qui est encore dans la tradition romaine de la représentation et de l'imitation et de l'illusion, parce que vous avez un ciel bleu, vous avez des plantes, vous avez des roches, des boutons qui sont presque d'une sorte de dimension presque anatomique correcte, hein, y compris anatomie, lumière, on est dans un espace et dans un temps réel, avec y compris des figures, des postures, même à modeler sur la figure du personnage, des proportions tout à fait humaines. Et donc, derrière ce décor abstrait, vous avez quand même une représentation figurative et illusionniste, naturaliste, des personnages représentés. Là, vous avez quelque chose alors, qui me semble étrange, j'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé, parce que vous avez deux cervidés, ici, sans doute, autour de quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, avec des palmes et des plantes. Là, ce qui m'a semblé un peu étrange, et ça, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement, les voilà un peu mieux. Mais regardez hein, le côté naturaliste remarquable au niveau des sabots, etc. Et ça, c'est toute la tradition romaine. On a vu l'autre jour, je vous l'ai montré la semaine dernière, les mosaïques incroyables des Romains sur la qualité d'observation fascination, y compris pour végétaux, flore, faune, etc. On viendra tout à l'heure sur les deux cervidés. Là, vous avez une scène, sans doute, on dirait Saint-Laurent, mais est-ce que Saint-Laurent, je ne sais pas s'il existait déjà, avec ici, qui va sans doute vers son martyr. Là, vous avez les quatre évangélistes, Marc, Lucas, Matthieu, etc. Saint-Laurent étant été brûlé parce que, sur son lieu. Et barbecue, méchoui, donc voilà. Alors juste ici, dans le détail, je reviendrai un peu sur la technique de mosaïque. La technique de mosaïque, ça va avoir une importance théorique dans la tradition chrétienne, et ça c'est intéressant, c'est que les chrétiens vont être très malins, les artistes chrétiens, parce que la plupart du temps, ils vont savoir faire des techniques, des symboles. Hein, et on verra. Donc la mosaïque, c'est une multitude de petits carreaux colorés, soit en vert, soit naturel, etc. Et fractionnés, et effectivement, il y a quelque chose qui est intéressant et qui est très clair dans la technique de mosaïque, si vous n'avez pas de traces du geste, vous n'avez pas de traces de la main, vous n'avez pas de traces de peinture. Donc on est quelque part dans une désincarnation quand même au niveau de celui qui peint. La différence d'un fresque qui se fait par un geste, dans la mosaïque, vous avez quelque chose qui désincarne le geste, puisque vous n'avez pas de geste, vous n'avez pas de traces, et vous n'avez presque pas de présence humaine. Et ensuite, il y a quelque chose d'un peu neutre, froid, dur. Et puis, vous avez aussi une figure très claire, de la quantité. Parce que la mosaïque, c'est une multitude de petits, tout petits trucs qui finissent par former aussi une image. Alors ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur la question de la qualité.
Comment présente la cavité là-dedans ?
Eh bien ça, c'est une vraie cavité, ça. C'est un vrai...
C'est une fenêtre.
C'est une fenêtre. Ça, c'est une fenêtre. C'est une vraie fenêtre. Hein. C'est une fenêtre avec une vitre d'albâtre. Alors donc oui, j'ai oublié de vous dire, c'est à Ravenne, donc nord de l'Italie, etc. Alors regardez ce que j'ai trouvé quand je travaillais sur Astarte, Ishtar, Inanna, etc. J'avais trouvé cette figure assez étonnante, qui est donc de préhistorique, hein, où vous aviez cette déesse femme qui tient les végétaux et les plantes, le soleil, les astres, les étoiles et la lune, et entourée de deux boucs, de deux bêtes, etc. Et
sauvages.
Qui sont... Et c'est assez drôle de voir chez Galaplacidia, on trouve encore ces deux boucs qui, autour d'une femme qui, quelque part, aussi est recouverte. Il y a, vous avez les étoiles, la lune, les astres, les végétaux et aussi les animaux. Donc, est-ce que c'est des réminiscences presque archaïques, comme je dis, des souterrains comme ça autour de Galaplacidia qui la rattachent à une vieille tradition de Ishtar, Inanna, Astarte, première déesse, figure divine, féminine, etc. Étrange, serait-il que... voilà. Alors, le bon pasteur, donc voilà d'un peu plus près. Hein. Alors, quand je vous parlais de la qualité de la mosaïque... Hein. Alors, rappelez-vous aussi ce que je vous disais, les mosaïques, on les trouve surtout dans tout le bassin méditerranéen, et encore maintenant, parce que c'est plus frais, hein, c'est plus froid, il y a quelque chose de... ça résiste bien, effectivement, à toutes les températures, et y compris, je pense que quand il fait très chaud, il y a une petite condensation sur les murs qui ruissellent et qui rajoutent dans le sentiment de fraîcheur dans les pays chauds. Hein, donc, c'est vraisemblablement aussi une tradition romaine, mais là, qui est transposée du côté d'une image chrétienne très claire, mais dans laquelle vous avez de l'ombre. Vous avez, regardez, les petits boutons ont de l'ombre. Vous avez des nombres propres sur le bras, sur la main. Vous avez des dimensions anatomiques qui ne sont pas du tout symboliques, avec y compris des postures, même en perspective, hein, raccourcies, de face, de côté, couchées, donc des éléments de vie. Quelque chose qui donne une vision presque illusionniste, ce qui reste de la vieille tradition romaine, hein, on va dire païenne, dans le christianisme. Alors voilà aussi, alors les rinceaux dorés. Alors, l'or, on va le voir, l'or va prendre aussi une importance symbolique au niveau des chrétiens. L'or, on ne le trouve pas tant que ça dans la tradition romaine, mais dans la tradition chrétienne, on va voir de l'or apparaître, effectivement, puisque le dieu des chrétiens, étant assimilé quand même au soleil, vous allez avoir dans l'or une dimension symbolique toute simple, mais qui fonctionne aussi parfaitement. C'est puisque l'or, c'est un minerai brut qu'on trouve sous terre, et puis une fois qu'il est dépouillé, il devient lumineux, solaire, et presque céleste. Et pour les chrétiens, c'est comme Jésus, qui est un humain boueux, terrestre, qui naît dans la terre et qui est transmuté avec la résurrection en figure céleste et solaire. Donc finalement, l'or, c'est un peu comme Jésus pour les chrétiens. L'or, c'est quelque chose qu'on va trouver partout, qui reste en tout, qui est un minerai, on va le dépouiller, puis ça devient lumineux. Comme le Jésus des chrétiens, qui est un humain, tout simplement, puis ça devient céleste. Et d'ailleurs, ici, vous avez au centre le Kyro, le Ki et le Rho grec, avec l'alpha et l'oméga. Vous avez aussi quelque chose qui est important, l'inscription, alors cette fois-ci dans le cercle, donc on commence à avoir une iconographie des images et des symboles qui commencent à être assez cohérents, des formes géométriques, des matériaux, des techniques, et vous allez avoir progressivement quelque chose qui constitue vraiment un langage assez cohérent. Alors il y a encore des restes, si vous voulez, de la tradition romaine, la mosaïque, l'imitation, etc., mais on devient dans un ordre symbolique qui s'établit très clairement, très progressivement, mais très bien. Donc l'or, le cercle, le alpha et l'oméga, c'est aussi le début et la fin, hein, de l'alphabet, qui correspond aussi à cette idée du cercle, de quelque chose d'achevé. Mais aussi, c'est une importance donnée au langage, puisque les chrétiens et presque toutes les religions du livre vont passer beaucoup par la parole et le langage. Jésus chrétien dit d'ailleurs « je suis le Verbe », etc. Après, dans la tradition même juive, eh bien, la Torah, c'est toujours cette idée d'interpréter les textes et les mots. Et puis, dans la tradition musulmane, la parole du prophète, dictée par Dieu au prophète, c'est aussi quelque chose d'absolument essentiel. Tout d'un coup, la parole devient effectivement une parole sacrée donnée par une personne divine. Donc, c'est quelque chose qui devient absolument fondamental et central. Et très très différent de toutes les religions qu'on a eues jusqu'à présent, qui étaient, on a vu, beaucoup plus liées à la nature. Là, on est vraiment dans quelque chose de l'idée, d'une presque abstraction. Et d'ailleurs, on va aller de plus en plus, le symbole, l'écriture, font qu'on s'éloigne effectivement de la nature. Et là, vous avez les deux en même temps. Là, vous avez les deux, et ça sera d'ailleurs un des grands enjeux de l'art chrétien, c'est de combiner à la fois ce qui est purement symbolique, religieux, unique, divin, solaire, inaccessible, et en même temps, le rapport à la terre, au monde réel. Et là, vous l'avez, les deux, de manière qui sont d'ailleurs liées inextricablement presque. Alors, Galla Placidia, là voilà, avec, je crois, c'est, je ne sais plus, c'est son premier mari, je crois, hein, Atlof, qui était justement un Visigoth christianisé, et là, en bas-relief, et un de ses fils, qui sera, lui, plus tard, empereur. Alors, Galla Placidia, donc, une vie d'ailleurs, une femme assez indépendante, je crois qu'elle n'avait pas voulu se marier avec n'importe qui, c'est elle qui a choisi avec qui se marier, donc c'est quelqu'un qui, c'est pas du tout une potiche, hein. Et on verra d'ailleurs que les impératrices, vont avoir souvent les impératrices chrétiennes orientales, auront un rôle très important. Plus d'ailleurs que, je crois, celle de l'Occident, de l'Empire chrétien d'Occident. Et donc voilà, je reviens, bon, ça on l'a vu, et... Alors, chose assez marrante, puisque là on est autour de Galla Placidia, on a à Istanbul, encore en Turquie, on n'a toujours pas quitté Constantinople, Istanbul, etc. Donc, le mausolée est à Ravenne, mais on est presque, on n'est pas très loin, enfin, c'est la porte, si vous voulez, vers Istanbul, Constantinople. Et à Constantinople, Istanbul maintenant, vous avez l'obélisque de Théodos, qui est donc un des fils de Galla Placidia, hein, sur laquelle on a, là encore, la construction, si vous voulez, d'une iconographie. Alors là, qui va devenir un petit peu plus séculaire, on va dire, de l'empereur associé au christianisme. Alors juste un détail, c'est la base d'un obélisque, donc l'Égypte n'est jamais très loin. Là, le fils de Galla Placidia, empereur, chrétien, se représente ici, ou représente plutôt Jésus, mais à la manière, cette fois-ci, d'un empereur, il n'y a plus de femme, entouré de ses évangélistes et de ses disciples et de tous les saints, hein, comme effectivement trônant sur un monde bien réel, et il le représente un peu à la manière, justement, ben, des bas-reliefs romains. Donc là, vous avez aussi, si vous voulez, vous avez quelque chose d'assez complexe. Le mausolée de Galla Placidia reprend, on a vu au niveau des mosaïques, des images, de la couleur, de l'ombre, etc., des choses. Mais vous avez aussi la représentation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel qui vont aussi se rapprocher. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'empereur étant l'empereur des Romains, mais aussi le représentant de la chrétienté, va fusionner progressivement le culte à l'empereur et le culte à Jésus. Jésus, Trinité, etc. Et donc vous allez avoir une identification, si vous voulez, de la figure de Jésus ressuscité, etc., entouré de son équipe, je simplifie, qui sera assez proche de celle de l'empereur, entouré ben, de ses préfets, de ses militaires, de ses soldats, etc. Donc une sorte de hiérarchie, et en fait, d'ailleurs, ce que l'on croit savoir, enfin, d'après Paul Veyne, si vous voulez, si ça vous intéresse, il y a un livre qui est très bien, qui s'appelle Depuis Constantin, comment l'Empire est devenu chrétien. Et on pense d'ailleurs que quand Constantin et ses suivants ont voulu christianiser l'Empire, ils ont fait une chose assez simple, c'était tous les préfets, ils ont transformé en évêques. Et donc, si vous voulez, il y a une sorte de hiérarchisation, y compris du christianisme, qui était un christianisme idéologique, philosophique, religieux, pauvre, enfin, voilà, qui était un peu en marge et dans les ténèbres, souvent, et bien très progressivement, il devient un christianisme officiel avec une hiérarchie, avec un commandeur à la fin de l'empereur, puis plus tard, il y aura des rivalités avec le pape, etc., qui commande réellement. Mais vous avez donc une construction aussi de la religion dans le territoire, et ça se traduit y compris par la manière dont on représente la religion. Donc on va s'écarter dans un certain temps aussi de la dimension symbolique pour arriver dans des représentations assez prosaïques. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste le chiro, là on voit ici le X et le... enfin le qui et le rho du chrétien, mais c'est beaucoup plus ténu. Là voilà encore des représentations, et dans ce cas-là, vous voyez les boucliers, d'ailleurs, on ne sait pas très bien si c'est l'empereur ou si c'est Jésus, c'est sans doute l'empereur, mais comme gardien aussi de la religion. Et là, c'est quelque chose aussi qui est assez clair. Alors, il y a aussi d'autres explications qui sont assez marrantes sur l'idée des préfets qui deviennent évêques. C'est qu'en fait, le christianisme, je vous ai dit, il avait un côté très populaire, mais il séduisait aussi certains intellectuels. Parce que c'était une religion, en fait, assez philosophique, comparée aux religions, on va dire, traditionnelles, qui reposaient beaucoup sur la magie, sur les superstitions, sur des traditions très anciennes. Le christianisme a l'avantage, quand il apparaît, d'être une religion, en fait, assez philosophique. Sur l'universalité du genre humain, sur des choses qui sont réelles, hein, qui sont toutes bêtes, qu'on soit esclave, femme, puissant, misérable, etc. Le Dieu est le même pour tous. Elle simplifie complètement les rituels, donc ça fait réfléchir aussi au rapport à la religion, à la foi, à la messe, etc. C'est quelque chose qui est très... au rituel sacré. Donc vous avez quelque chose qui est assez simple, qui est très fluide, qui peut s'adapter à tous les peuples, justement, parce que les seules choses qui sont demandées, c'est juste de manger du pain et du vin une fois par semaine, et puis de penser à ce Dieu-là. C'est une religion qui, cette fois-ci, évoque une certaine morale et éthique, ce qui n'est pas le cas des autres religions, qui sont des religions politiques dans lesquelles il y a un rapport à la nature et au pouvoir, mais ni bien ni mal. Là, tout d'un coup, vous avez une notion du bien et du mal, dans un empire où il y a, effectivement, totalitarisme, violence, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut séduire certains intellectuels, y compris même certains... personnalité romaine assez importante, et d'après ce qui se dit, en fait, il y avait dans l'élite romaine pas mal qui commençaient déjà à être chrétiens, plus ou moins clandestinement, etc. Et donc, quand il s'agit de christianiser officiellement un peu tout l'Empire, ça se fait de manière pas si difficile que ça, parce que d'abord, c'est relativement populaire, et ensuite, vous avez une partie des élites qui acceptent très vite aussi de jouer le rôle de chef, évêque, etc. Et évêque-préfet, donc avec un lien assez complexe avec l'empereur. Donc, vous voyez qu'il y a une fusion, cette fois-ci, dans la christianisation de l'Empire, qui est assez drôle. Alors, bon, ça, c'est un autre petit... Alors, tout ça, c'est un peu complexe, mais intéressant. Alors, retour à la tradition gréco-romaine, justement, des mosaïques. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est d'un côté la tradition gréco-romaine des mosaïques, ensuite, on va voir la tradition paléo-chrétienne de l'imagerie chrétienne, et puis ensuite, on va voir la tradition byzantine, c'est-à-dire comment toutes ces choses vont se mettre en place. Alors, je vous ai dit que le mausolée de Galla Placidia était un peu une sorte de connexion, c'est un peu, presque tous les trucs que je choisis, c'est des relations entre des mondes qui sont en train de basculer. La tradition de la mosaïque romaine, athée, est quand même assez extraordinaire. Assez extraordinaire, et on a des exemples. Alors, hélas, en France, il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà une mosaïque qui est à Palestrina, et c'est la mosaïque sur la crue du Nil. Ça, c'est un détail, je crois que je vous l'ai montré. Qui est une mosaïque absolument magnifique. Hein, donc, tout à l'heure, je vais montrer des fresques. Et voilà des mosaïques. Alors, quand même, fascination pour l'Égypte. Là, vous voyez encore, je crois que c'est le fameux temple de Philae, toujours, avec les ombres propres et les ombres portées, toute une vision de l'Égypte vue par les Romains, hein, les Gréco-Romains, et cette mosaïque magnifique, hein, donc montre un petit peu le degré de sophistication de l'art de la mosaïque romaine. Voilà encore l'ensemble de cette mosaïque, hein, et c'est effectivement sublime. Et c'est toujours la fascination de l'Égypte. Vous avez vu que même Trajan, quand il arrive en Égypte, il sacrifie au style égyptien, c'est-à-dire qu'il n'impose pas le style romain en Égypte. Ah oui, puisque vous n'étiez pas là, mais en fait, je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise, je vous avais suspendu. Mais en fait, c'était quoi? C'était qu'en fait, tant pis, je retourne en arrière, c'est pas grave. Puisqu'on est sur la fascination de l'Égypte, c'est que Trajan, dans toute sa conquête de l'Afrique du Nord, s'arrête en Égypte. Et quand il arrive en Égypte, Trajan, eh bien... Trajan. Ah non, c'est pas ici. C'est. Où est-ce que j'ai trouvé ça? C'était. Si, c'est là normalement. Ou là? Mais non, ah, mais je vous l'ai montré la semaine dernière. Mais c'est là alors. Ah ben voilà! Trajan, quand il arrive en Égypte et quand il arrive sur l'île de Philae dédiée à Isis, eh ben, il fait un pavillon égyptien en l'honneur d'Isis et de Hathor. Et ça, c'est le pavillon de Trajan. C'est Trajan qui a fait faire ça. Donc, vous voyez quand même la puissance de l'Égypte. C'est que Trajan, et j'avais pas, je ne savais pas, moi, c'est en voyant Trajan, mais il est même arrivé sur l'île de Philae. Donc, de Paris à Trajan, en passant par Rome, etc., vous avez une unité quand même. Et la fascination pour l'Égypte, elle est très forte, parce que Trajan ne fait pas du... Il faisait du romain partout, mais sauf en Égypte, où là, c'est lui qui s'égyptianise complètement, jusqu'à, d'ailleurs... Attendez, c'est-à-dire c'est l'île de Philae, toujours, il y a un temple à Isis, temple à Hathor, et kiosque de Trajan. Donc quelque part, là, tout d'un coup... Trajan accepte complètement et il se fait même représenter en pharaon. Ça, c'est Trajan. Et ici, rendant hommage à Horus et à Hathor, alors Hathor, Isis, avec la vache, Nout, etc., avec même le vautour, etc. Mais vous avez tout d'un coup le conquérant et l'empereur romain, et le voilà qui se fait représenter piétinant des ennemis, etc., mais quand même. À l'égyptienne, c'est-à-dire que vous avez quand même une puissance de l'art égyptien qui réussit à s'imposer tout le temps. Mais c'est assez marrant de voir ça. Alors toujours est-il que donc, la fascination pour l'Égypte, on la voit de différentes manières et elle est absolument persistante. Alors, je reviens aux mosaïques romaines, la tradition gréco-romaine. Donc, alors, bon, cette image sur la crue du Nil, alors elle est d'assez bonne qualité à ce document. On peut le zoomer, et là, vous voyez la fascination pour la diversité du monde. Alors, on dit gréco-romaine parce que l'Empire, on dit l'Empire romain, mais l'Empire romain était partagé. Les deux langues et les deux alphabets circulaient très facilement. C'est-à-dire qu'on a des textes en grec, des textes en latin, etc. Mais vous voyez que là, on est dans un naturalisme très très clair et typique de l'Empire romain. On n'est pas du tout dans une idéalisation, et on est aussi dans une maîtrise de l'espace et du temps, et de tous les éléments, nature, faune, flore, humain, action, etc. Action, pêche, chasse, etc. Donc ça, c'est une des mosaïques.
La spécialisation, il ne symbolise pas encore.
Et bien là, on va voir justement cette progressive symbolisation complexe et qui va correspondre, dans laquelle il y aura des enjeux gigantesques que les querelles iconoclastes vont être justement. Et comment est-ce que l'impératrice Irène, encore une femme, va réussir à lutter contre Léon l'Isaurien et rétablir le culte des images, avec une dimension justement qui va être fondamentale, c'est comment rendre les images symboliques et pas uniquement représentatives et d'imitation. C'est comment est-ce qu'on va progressivement essayer de faire des images qui soient des images symboliques et pas des représentations et des illusions du monde. Et dans laquelle la mosaïque aura de l'importance, justement, parce qu'elle n'est pas faite, elle semble ne pas être faite par les humains. Il n'y a pas de traces du corps. Alors ça, c'est toujours des détails de la mosaïque de Palestrina sur la crue du Nil. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre fresque ? Alors, Palestrina, je ne sais plus où c'est. Alors juste ça, c'est incroyable. C'est une mosaïque découverte récemment, tout récemment. Alors c'est en Turquie encore. On parle du monde gréco-romain. Et là, vous avez une idée de l'échelle. Hein, ça a même pas une dizaine d'années. Hein. Et vous voyez ici une mosaïque grecque découverte, un pavement d'une beauté absolument incroyable, où vous avez les muses de l'art, hein, et qui sont ici. Alors là, c'est Calliope, je crois, au premier. Des mosaïques, alors là, qui sont trouvées en état assez remarquable. Donc, alors je vais vous en montrer d'autres. Alors, celle-ci, c'est donc en Turquie actuelle, hein, c'est en train d'être découvert. Ça, c'est à Phalence. Là encore, des scènes de mosaïques romaines. Ça, c'est encore... Alors, là, on va voir les détails. Ça, c'est toujours trouvé en... Alors, je crois que c'est le site de Zeugma. Z-U-U-G-M-A. Z-U-G-M-A. Et là, vous avez donc une figure féminine avec le regard, regardez, même le reflet dans l'œil, hein, quelque chose de très vivant. Alors, le reflet dans l'œil, c'est un effet de la lumière réelle, du moment et de l'instant. Ça aussi, c'est assez fascinant. Et puis, regardez le jeu sur à la fois les couleurs, les tons, les ombres, etc. C'est absolument prodigieux. Ça demande un recul et un savoir-faire assez incroyable. Et ça, c'est le sable autour. Alors, attendez, je continue, parce que j'en ai trouvé quelques-unes. Et en cherchant récemment, ça, c'est toujours trouvé en Turquie. C'est des mosaïques au sol. Ce sont des scènes de la mythologie gréco-romaine qui étaient fusionnées. Et les voilà en train d'être découvertes. Donc, c'est quand même assez émouvant de découvrir ça. Et on pense qu'il y en a beaucoup plus que ce que l'on croit. Là, ce sont toujours des mosaïques gréco-romaines trouvées en Turquie, dans lesquelles vous regardez les effets de proportion, de lumière, d'anatomie, la scène, l'espace, les ombres portées. Regardez les ombres faites sur, par l'espèce de siège sur le mur ici, comme, les brillances, hein, les effets de matière, c'est quelque chose d'assez fantastique. Mais c'est tout récent, on a trouvé ça tout récent. Là d'ailleurs, regardez le site en train d'être découvert, ça je crois que c'est en 2000 ou quelque chose, donc il est encore en train d'être exploité et découvert, je crois. Et c'est donc, je crois que c'est Zogma ou. Voilà encore. Alors, juste un truc tout bête, c'est des mosaïques aussi. Là, vous avez une bonde d'évacuation des eaux. Donc, c'est des thermes ou des piscines ou des salles. Donc, voilà. Donc, la décoration et la maîtrise est assez prodigieuse, je vous dis, des apparences. Hein. Là encore. Alors, ça, c'est la Leptismania en Libye. L'autre jour, je vous l'avais montré, je crois. La Leptismania, dans laquelle Trajan, d'ailleurs, a été un des fondateurs de la Leptismania. Donc la Libye actuelle, et vous avez ici un culte à Orphée, Orphée qui trône autour des animaux, qu'il va quelque part dompter et dominer. Bon, une des premières fonctions ensuite d'Adam, ça va être de nommer les animaux, hein, cette idée aussi, on va avoir une transposition aussi progressive, même des mythes gréco-romains, parfois en mythes chrétiens. Mais vous avez ici à Leptismania, vous voyez, la pêche, la faune, la flore, les animaux domestiques, les animaux que l'on pêche, les animaux ici, le cheval qui est attelé, vous avez les bêtes que l'on va pouvoir parquer, les animaux de la basse-cour, les techniques de pêche, donc on est à la fois dans un côté mythique et dans un côté très pratique, ça c'est typique justement du monde aussi romain, où on ne va jamais abandonner la technique, et là, le côté bien, bien prosaïque et réel. Là voilà, des gens en train de nettoyer les mosaïques, toujours en Turquie, ces mosaïques découvertes donc très récemment, avec une technique remarquable, et là encore, ces décors. Et alors ça c'est toujours Palestrina en fait, je suis revenu, voilà. Donc, là voilà quelques exemples, mais il y en a beaucoup, hein. L'autre jour je vous ai montré les gladiateurs, qui montre que pendant des siècles et des siècles, vous avez une technique de mosaïque et de représentation du monde réel, de ce qu'on appelle la mimésis ou l'imitation, qui est poussée parfois très très loin. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de progrès en technique artistique. On le sait déjà depuis les peintures animalières du Drakensberg ou même de Lascaux. Donc la question des humains, ce n'est pas une question ni d'apprentissage ni de technique, puisque là on le voit bien, y compris même l'ombre, la lumière, même la perspective empirique, l'anatomie... Les hommes préhistoriques, même très anciens, le savaient parfaitement. Et là, on en a une preuve évidente. Donc, là où c'est intéressant aussi, pour revenir à votre question, c'est de savoir comment on va basculer justement vers un monde totalement symbolique et chrétien qui se détache de plus en plus du monde réel pour aller vers un univers essentiellement spirituel, abstrait, philosophique, symbolique, transcendant, etc. Et cette religion qui arrive en plus dans un monde qui a des siècles de techniques et de traditions, au contraire, d'ancrage dans la réalité, de maîtrise du monde réel, des techniques, de l'industrie, de l'économie, des peuples, de l'armée, de la violence, de la politique, de l'ingénierie, etc. Et là-dedans, vous allez voir s'immiscer progressivement une religion qui, normalement, hein, s'écarte de tout cela. Alors au niveau de l'image, c'est d'autant plus complexe, que les premiers à faire de la religion chrétienne quelque chose presque imposé, c'est les empereurs. Donc comment est-ce que, vous allez voir, la rencontre complexe entre quelque chose qui est né d'un petit peuple de pêcheurs ou de bergers du bord du Jourdain, etc., va réussir à conquérir, à être adopté par des empereurs d'un des plus grands empires qui ait jamais existé. Alors, ce qu'on appelle maintenant le paléochristianisme, c'est justement avant l'unification des styles chrétiens. C'est-à-dire qu'en gros, avec Galla Placidia jusqu'à Constantin, c'est ce qui va se passer, ça va être l'unification du style chrétien. Mais avant ça, ben vous avez des pratiques très variées. Et c'est ça qui est assez drôle. Vous allez avoir des pratiques très variées de la part des chrétiens. Parce que d'abord, des chrétiens, parfois ils sont minoritaires, parfois ils vont être cachés, parfois ils vont être tout seuls comme en Irlande, ils vont être très loin de Constantinople, donc ils vont être tout seuls dans leur petit coin. D'autres vont être au fin fond de l'Espagne, d'autres vont être de tradition plus ou moins nordique, etc. Vous allez avoir donc une démultiplication. Tout ce qui est, avant que tout cela soit unifié, eh bien en fait, vous avez des pratiques, on va dire, paléo-chrétiennes, donc en gros, bah, entre 60 après Jésus-Christ et puis bah, Galla Placidia, vous avez des pratiques. Alors, par contre, elles ont souvent été enfouies, oubliées, évacuées, récupérées, etc. Alors, je vous en montre quelques-unes. Là, une des plus belles, cette fois-ci, c'est pas étonnant, on n'est pas loin de Ravenne, c'est la plus grande mosaïque chrétienne du monde. C'est à Aquileia, Aquileia, donc on est vers 400 à peu près, 400 après Jésus-Christ. C'est une basilique romaine qui est entièrement dédiée au christianisme. Alors là, on est quand même dans une tradition, on va dire, où le christianisme est reconnu depuis Constantin. Aquileia, c'est tout au nord de l'Italie, c'est à la frontière, c'est pas loin de Trieste. Vous voyez ? Donc on est là, pas loin des Balkans et de l'Italie. Et c'est un peu le lieu de passage aussi entre l'Orient et Rome. Hein. Et là, vous avez une des plus grandes, je crois que je vous l'ai montré la dernière fois, l'année dernière, où on va retrouver quelque chose, c'est pour ça que j'ai montré la crue du Nil, qui est dans une sorte de fascination aussi pour la nature, hein, la diversité du monde, de la nature, etc. Vous avez des scènes de pêche, etc. Et puis vous avez quand même ici une signature chrétienne, etc. Hein, qui héros toujours. Ce qui est assez drôle dans Aquileia aussi, alors là, voilà, la basilique. Alors maintenant, ils ont installé, ils ont été découverts sous, parce que vous voyez, les colonnes, il y avait un pavement qui était dessus. Donc la basilique ici, une basilique gothique, qui a été construite sur une basilique paléo-chrétienne, romaine-chrétienne, et c'est en faisant des travaux, je crois, qu'ils ont découvert tout ça. Donc ils ont excavé, ils ont trouvé les anciens socles des anciennes colonnes, et ils ont trouvé le pavement. Donc maintenant, c'est protégé par du verre et des tapis, et on peut circuler au-dessus sur des galeries de verre. Et donc, vous avez un ensemble absolument prodigieux. Alors, les poissons et les scènes d'eau et de pêche, qui étaient une sorte de tradition de façon romaine, on l'a vu, va se fondre aussi avec le christianisme assez facilement, puisque Jésus vit au milieu des pêcheurs du Jourdain, etc. Il y a plein de scènes autour du poisson. Hein. Et ensuite, le poisson, c'est ça qui donne ictus, hein, qui donne aussi ces mêmes lettres que Christ, etc. Puisque c'est Jésus Christus, je sais pas quoi, Théo, fils de Dieu, hein. Y, X, Christus, T, Dieu, et ça fait la même lettre que Ictus, qui veut dire poisson. C'est vrai que le poisson est devenu aussi un symbole chrétien. C'est compris par les jeux traditionnels juifs de jeux avec les consonnes. Et vous voyez, et aussi là, la métaphore aussi du pêcheur qui va essayer d'aller puiser, etc., au fond de l'eau, un peu par hasard, les poissons un peu qui sont comme des âmes, etc. Et puis les pêcheurs du Jourdain, etc. Alors donc le thème de l'eau, hein, et le thème des poissons est ici transposé progressivement vers un univers chrétien. Aquileia, oui. Et voilà donc cette mosaïque absolument gigantesque et remarquable. Donc voilà quelques détails. Et là on avait tout à fois le thème de l'eau, le thème des pêcheurs. Là on trouve aussi le thème du bon pasteur, que l'on va trouver, qu'on trouve plus tard chez Galla Placidia, hein, et là encore aussi le thème des animaux, alors des animaux sauvages, des animaux domestiques, que l'on trouve ici. On trouve même des choses qui sont pas loin des fables, vraisemblablement peut-être d'Ésope ici, avec les hérons, les vases, etc. Donc un mélange complet entre plusieurs cultures qui se font ici de façon assez naturelle, mais ce qui domine quand même surtout Aquileia, c'est quand même la tradition romaine et figurative et illusionniste et naturaliste. Avec aussi, et ça on le verra plus tard, alors, c'est complexe, quelque chose qui sera important dans l'art chrétien, c'est les entrelacs et les labyrinthes, sur lesquels on reviendra plus tard. Et ça, on ne trouve pas tellement dans la tradition gréco-romaine, chrétienne, mais on le retrouvera dans la tradition nordique. Et il y a une explication à ça assez intéressante. Alors, le nœud et l'entrelac, c'est quelque chose qui, au début, quoi, juste une fascination technique pour un objet étrange, mais pour les chrétiens, ça sera l'idée d'un univers, d'un monde fini, mais dans lequel on peut se perdre. Dans lequel on peut se perdre. Donc, le labyrinthe, le nœud, oui.
On sait comment ces sols-là qui sont foulés aujourd'hui par les gens, encore, parce que moi j'ai visité une basilique dans le à d'Otranto, qui est magnifique, et les gens vont, la messe a lieu. Comment ça a résisté autant? Comment il n'en manque pas de morceaux?
D'abord, je crois que la perpétuation du culte fait que les gens respectent, mais ensuite, les mosaïques, c'est vachement costaud. C'est vachement costaud, parce que justement, c'est des petites pierres qui sont parfaitement collées.
Collées avec quoi?
Ils ont du mortier, de la colle. Les mortiers, par exemple, j'ai appris un truc tout bête, c'est que le mortier et la colle. J'ai visité le château de Guédelon, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, un château. Et c'est assez super, mais ils disent que, par exemple, pour la colle, ils avaient la chaux, déjà, et puis le jaune, l'œuf. Ils mettent de l'œuf dans le mortier. La technique de l'œuf L'œuf, c'est une école d'enfer. Plus, il y a aussi l'école de poisson, l'école de peau, l'école animale. Il y a plein d'écoles, ça fait longtemps qu'ils connaissent l'école. Donc, cette idée de voir des sortes de ciments et des colles et des mortiers qui tiennent, ça, c'est assez ancien. Hein.
Et, souvent, ils ne mettent pas de joint.
Alors, je pense qu'en dessous, il y a peut-être un truc. Ils ont peut-être quand même une sorte de chape qui est quand même assez. Mais c'est assez stupéfiant. Alors.
J'ai pas compris. Alors, elle a été recouverte à une
époque. Oui, elle a été recouverte. Mais
pourquoi ?
Ben, parce que, alors, je sais pas pourquoi, mais parce que pendant longtemps, l'histoire, on n'a pas. Les chrétiens n'ont pas arrêté. C'est eux qui ont défait le plus de trucs. Sinon, la cathédrale de Chartres n'existerait pas. Hein. En dessous, il y a sans doute des basiques romanes, et sans doute pré-romains, et peut-être paléo-chrétiennes. Et voir ensuite Isiaque, ou, etc. Ce qu'on disait. Donc, les chrétiens sont les premiers à défaire un truc et à le refaire parce que. Et alors, il y a aussi l'évolution des cultes, hein. Il y a aussi des choses qui sont... Mais peut-être, une des hypothèses possibles, c'est que c'était une image peut-être trop naturaliste. Il suffit que la crise iconoclaste passe par-dessus, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces images? Ça n'a rien à voir avec la religion, ça nous montre, ça nous détourne du vrai Dieu, et donc on va les recouvrir. Les iconoclastes ont même cassé... les protestants, quand ils ont récupéré les églises catholiques au XVIIe siècle, ont cassé et viré tous les... sculpture. Savonarole, au XVIe siècle, il fait brûler toutes les peintures parce qu'il considère effectivement elles écartent de Dieu. Donc les iconoclastes sont fréquents.
À Chypre, hein. Dans les églises, il y avait des peintures absolument magnifiques et tous les visages ont été martelés.
Ah oui, ouais. Alors, dans les catacombes aussi, on a des images. Alors, c'est assez. On va avoir des peintures aussi, donc vous avez des basiliques, donc c'est un style qui va être un peu officiel. Dans les catacombes où les chrétiens se cachaient, vous avez aussi parfois des images, alors, du temps où ils étaient persécutés. Une des images qui revient assez souvent, c'est quand même Jonas. Jonas dans sa barque qui est donné à la baleine, hein, qui est jeté par ses compatriotes, etc., à la baleine, puisqu'il prétend croire en Dieu, donc est-ce qu'il va survivre. De manière métaphorique, il disparaît et puis il ressuscite. C'est un peu comme Jésus ou comme Joseph jeté dans le puits, cette idée de chute et réinitiation. Et puis on a aussi le thème de la pêche, des bateaux et de la mer, avec l'idée de Jonas. Jonas, on le retrouve assez souvent. Hein. C'est un truc tout bête, mais on retrouve, ça c'est Ulysse et les sirènes. Mais ce qui est assez drôle, c'est de voir que c'est le même bateau. Et on trouve encore ce mythe du bateau et de la pêche dans la... dans une basilique, je crois que c'est encore Aquilea. Là encore. Et là, c'est le baptême de Jésus. Alors, c'est assez drôle. Je suis désolé, j'ai un peu changé. Le baptême de Jésus, donc on est dans les... Rappelez-vous, dans le paléochristianisme. Alors, par certains côtés, il y a encore... dans la basilique, c'est un christianisme qui n'est pas persécuté, mais vous avez aussi des images aussi qu'on retrouvait dans les catacombes, où on représente Jésus, le baptême de Jésus, mais à la manière romaine, avec ombre et lumière. Jésus est imberbe, il n'est pas barbu, donc on n'a même pas d'image de Jésus, on ne sait pas très bien, il le représente comme ils peuvent. Ici, le baptême, et on voit la main de Jean-Baptiste, mais vous avez ici le Saint-Esprit qui est représenté comme une sorte d'oiseau, qui envoie son esprit sur Jésus, etc. Donc, il y a une diversité assez étrange. Là, vous avez encore un Jésus Dieu ressuscité, toujours dans les catacombes, qui est un peu encore différent, avec l'alpha et l'oméga. Mais si vous regardez bien, il ressemble beaucoup au Sérapis que je vous ai montré. Hein, Sérapis, on a vu Osiris et Apis mélangé, qui était cette figure gréco-romaine, d'une sorte de père patriarche, puissant, etc., qui était déjà entouré aussi d'une sorte de puissance solaire autour de lui. Donc on voit bien que l'iconographie chrétienne, elle est de toutes sortes, et elle s'inspire de tout ce qu'il y avait déjà dans l'Empire romain et gréco-romain comme type de peinture, comme technique et comme registre. Et là encore Jonas, jeté à la baleine. Et ça, on l'a déjà montré. Alors Adam et Ève, que l'on voit ici aussi dans certaines très anciennes basiliques. Hein. Et par contre, pour arriver à ce que vous disiez, on commence à s'écarter du naturalisme. On commence à s'écarter du naturalisme, puisque comparé aux mosaïques gréco-romaines qu'on a vues jusqu'à présent, ça semble maladroit. Ça semble maladroit parce que progressivement, dans la tradition chrétienne, il y a quelque chose quand même qui est assez clair dans les textes, c'est le corps considéré comme un lieu de péché. Comme un lieu de péché, comme un lieu... comme une sorte de passage nécessaire, mais en fait presque honteux, dont il faut se détacher, se dégager. Jésus lui-même, se détachant de son corps humain pour aller vers un corps céleste, tout ce qui est sexualité, désir, érotisme, tout ce qui est incarnation, etc., est vu comme étant beaucoup plus proche d'une animalité. Donc progressivement dans la tradition chrétienne, on va se détacher de la représentation du corps réel et du monde réel pour aller vers une image beaucoup plus idéologique, hein, ou symbolique, et on va se détacher donc de la représentation anatomique du corps. Mais vous voyez bien que dans l'Empire et dans la tradition gréco-romaine, ils savaient parfaitement représenter des corps et des anatomies avec une grande subtilité. Donc si on s'en détache, c'est pas par maladresse, c'est par désintérêt totalement assumé. Et Adam et Ève, justement, il ne faut plus du tout qu'ils aient une sensualité, puisque là, au contraire, là, en gros, leur union charnelle, ils sont de nécessité presque catastrophique, puisqu'ils sont presque obligés de passer par là, et là, de cacher leur nudité, ce qui, cacher la nudité pour les Grecs et les Romains, c'était absolument absurde, puisque au contraire, ils étaient dans une sorte d'exhibition, une manière d'assumer complètement leur, leur corps, leur nudité, leur sexualité. Et alors, vous voyez, toujours Adam et Ève, ça c'est en Tunisie, hein, quand je vous dis qu'on va vers quelque chose de plus en plus symbolique, de désincarné, où la principale chose qu'ils ont à faire, c'est de mettre les mains devant le sexe, leur corps lui-même se réduit au bénéfice de la tête. Donc on voit bien aussi que d'un coup le corps, effectivement, s'amenuise au bénéfice d'une dimension spirituelle, de tout ce qui est tête, visage, etc. Et signe, on va s'approcher des choses de plus en plus signe. Et d'un coup, l'homme et la femme, là, sont séparés, y compris par l'arbre, le serpent, etc. Bon, là, vous avez quelque chose qui se constitue, hein, et de manière assez claire, et alors le sacrifice d'Abraham aussi, et d'Isaac par Abraham, hein, donc là encore des petites figures, des petits bas-reliefs très... Et on voit bien que là on s'éloigne, quand on voit les bas-reliefs romains de la colonne Trajane, et bien tout d'un coup on se rend compte que très clairement les artistes chrétiens, c'est pas du tout ce qui les intéresse, ils pourraient, mais c'est plus du tout ça qui les intéresse. C'est plus du tout ça qui les intéresse. Et en plus, ça peut être aussi des artistes mineurs. Ça peut être des gens qui sont inspirés et qui n'ont peut-être même pas la technique ni la maîtrise, mais c'est pas grave. L'important n'est pas du tout d'être dans la maîtrise, la virtuosité technique de la représentation de l'apparence des choses, mais au contraire d'aller vers le symbolique. Et ça, c'est assez clair. Alors, on va voir la prochaine fois le passage, justement, à une sorte de combinaison de cette exigence symbolique et de la tradition impériale romaine dans les mosaïques byzantines essentiellement et dans les querelles iconoclastes. Donc
ça fait penser à Tartuffe, là, chez moi,
ce temps. Ah oui. Donc alors c'est un peu, mais c'est un peu difficile de faire 600 ans d'histoire en quelques images, mais je vous incite à aller fouiller aussi par vous-même. Ou dans des livres, notamment comment l'Empire est devenu chrétien de Paul Veil. Le
sérieuse.